La technique, c'est la voiture que l'on conduit, le téléphone qui nous suit partout, ou la Wi-Fi dans nos salons. Mais c'est aussi le stylo avec lequel on écrit sa liste de courses, le couteau qui coupe nos carottes, la manière dont on parle, marche et pense. La technique est partout, invisible et assimilée. Et dans les minutes qui suivent, nous allons la chercher là où elle se cache, tout près de nous. Elle est à la fois savoir-faire et outil. Un ensemble de procédés informels, incorporés dans des objets créés par l'être humain. Partez avec nous à l'aventure dans un monde que l'on connaît trop bien, et que l'on a donc arrêté de voir. Et on vous prévient, ça va être technique.
Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Marine, étudiante en école d'ingénieur et en histoire des techniques. On va parler d'un de ses mémoires qui traite d'un objet très ordinaire, la chaise, et qui s'intitule « Asseoir son pouvoir ». À travers ce dernier et pendant ce podcast, on va tenter de répondre à la question suivante. Comment la chaise, objet pourtant si familier de notre quotidien, s'est-elle imposée à travers les siècles comme archétype de la représentation du pouvoir ? Salut Marine !
Salut Gaëlle !
Ça va ?
Ça va et toi ?
Super ! Aujourd'hui, on est ravis de t'accueillir sur notre podcast pour parler du mémoire dont je viens de parler. Premièrement, comment t'es venue cette idée ?
Alors, c'est assez simple en fait. Tu l'as dit toi-même, c'est un objet très ordinaire, la chaise. Et je me suis dit qu'il pouvait y avoir justement plein de choses à traiter dans un objet qu'on voit tout le temps et auquel du coup on ne pense plus. C'est un objet ordinaire donc qui est partout. Et je me suis posé la question de, évidemment, pourquoi est-ce qu'il est partout ? Alors, il y a plein de... Évidemment, c'est toujours multicausal. Donc, j'ai pas pu tout traiter, bien sûr. Donc, moi, j'ai souhaité traiter ça sous... l'angle de l'importance de la représentation symbolique. Et le premier constat qui m'a confirmé l'idée que... Enfin, qui m'a confirmé dans l'idée que je voulais traiter ce sujet, c'est que on est partout assis sur des chaises, et pourtant, il y a plein d'études qui ont montré, dès le XVIIe siècle d'ailleurs, qu'en fait... posturalement, la position assise n'est pas bonne pour le corps. Et donc, on a quand même ce paradoxe de tout le monde s'assoit sur des chaises, et pourtant ça ne serait pas bon pour nous. Ce qui m'a donné envie de creuser un peu plus l'affaire.
Bah oui, carrément, c'est assez étonnant que ce soit mauvais pour notre corps, et que pourtant elle soit présente partout. D'ailleurs, il y a un auteur que tu cites, Jean-Bernard Vuillem, qui dit qu'il y a tellement de chaises, en fait, qu'on serait en chaisocratie. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup parlé. Mais cela étant dit, comment tu peux expliquer en fait le lien avec le pouvoir, une fois que ça c'est dit ?
Alors pour ça, il faut faire machine arrière, remonter un petit peu dans l'histoire, avec le trône, évidemment. Quand on pense à la chaise et au pouvoir, c'est le premier objet qui vient à l'esprit. Et donc il faut savoir que dès sa création, la chaise, elle incarne le pouvoir. C'est des sièges réservés aux dieux, aux chefs, aux sorciers, à des personnes qui sont... entre guillemets, haut placé dans l'ordre hiérarchique de toute société. En Égypte, par exemple, la chaise, c'est typiquement le siège du pharaon, qui donc l'élève au-dessus des hommes, qui eux sont accroupis, les Égyptiens s'asseyaient plutôt sur des matelas ou accroupis, donc. Et c'est un peu le lien que cette chaise a avec le pouvoir, c'est, premièrement, elle distingue l'homme de l'animal, puisqu'elle le met dans une position différente de la position accroupie, qui est plus associée donc à l'animalité. Elle isole du commun des mortels par la posture, puisque historiquement, les hommes s'accroupissent et ne s'assiedent pas. Donc par l'assise, un individu se distingue des autres, et l'élève, on l'éloigne des mortels et on le rapproche du dieu. Donc typiquement, ça se retrouve dans plein de religions, la religion juive par exemple, où le trône de Salomon est un très, très, très grand symbole, qui donc a sa matérialisation sur terre, avec donc ce trône de Salomon, qui n'est que l'incarnation du trône de Yahvé qui est aux cieux. Et une preuve assez tangible et marquante que de ce lien entre la chaise et la divinité, c'est que le hiéroglyphe de personne vénérée, c'est un homme assis sur une chaise.
Donc si je résume un peu ce que tu viens de dire, le trône, il incarne le pouvoir, c'est-à-dire la supériorité du roi, mais il incarne aussi le pouvoir en prouvant la légitimité de la personne assise sur le trône en tant qu'être divin.
Exactement. Et ça va se retrouver plus tard dans le trône du roi, donc ça va devenir un des régalia, au même titre que le sceptre ou la couronne, par exemple. Sous les monarchies, ça prend forme notamment avec le sacre, qui a donc lieu sur un trône. Et on le voit, on en a beaucoup de traces, notamment dans de nombreux portraits, typiquement les portraits de Louis XV ou alors de Napoléon peint par Ingres, qui est Napoléon qui a une volonté de rétablir une monarchie universelle et qui pour cela se fait représenter trônant donc dans un trône dont le dossier crée une aura divine au-dessus de sa tête.
Quand tu mentionnes le portrait de Louis XV, qu'est-ce qu'il sous-entendait ?
Le portrait de Louis XV, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est donc Louis XV qui est peint à l'âge de 5 ans, donc il n'est même pas, qu'il n'est même pas roi. Mais l'idée, c'est de le représenter dans des habits d'apparat, avec tous les régalias, dont le trône, pour propager cette image d'un roi qui, même s'il est encore jeune et qu'il ne règne pas encore, sera en mesure de régner sur le pays et d'assurer sa prospérité. Donc encore une fois, le trône joue un grand rôle de symbole pour asseoir le pouvoir d'un potentat ou d'un roi.
Qui peut être reconnu par tout le monde, et compris par tous. Donc là, on vient de voir que le trône incarnait le pouvoir, donc la supériorité du roi et sa légitimité en tant qu'être divin. Et là, ce que tu viens de nous raconter, c'est que la chaise, par la suite, elle est également synonyme de pouvoir monarchique et de légitimité céleste du potentat. Mais la chaise, est-ce qu'elle serait pas aussi un symbole de hiérarchie sociale ?
Oui, exactement. La chaise est souvent réservée à une élite, mais elle est aussi présente dans des classes un peu plus inférieures, avec d'immenses guillemets. Par exemple, elle sert la frontière entre la noblesse et le tiers-état, et à l'intérieur des classes, elle incarne aussi une forme de hiérarchie. Par exemple, on le voit dans les tableaux de Pierre Bruegel l'Ancien, où on a les maîtres qui sont assis dans une chaise, alors que tous les invités, sont lors d'un banquet, sont assis sur des bancs. Donc les bancs représentant la masse, et la chaise isole, notamment par ses attributs. Et donc là, on voit l'importance des accoudoirs, du dossier, qui sont aussi un signe de pouvoir et de supériorité hiérarchique. Et ça se retrouve aussi à la cour de Versailles, où l'usage des chaises, en fait, est l'objet de toute une étiquette. Le roi Louis XIV a l'apanage du trône, donc le grand siège avec des accoudoirs. Seuls la reine et ses enfants peuvent s'asseoir dans des chaises à côté de lui, et seulement les ducs ont le droit d'avoir un tabouret. Donc on a comme ça une hiérarchie sociale qui suit la forme des chaises, et c'est l'historien de l'art Guillaume Janot qui affirme que l'une des charges les plus lourdes des huissiers des maisons royales consistait à empêcher les courtisans non qualifiés de s'emparer abusivement d'un tabouret. Donc on voit l'ampleur de cette étiquette autour d'un objet qui nous aujourd'hui nous paraît très commun.
Mais du coup, à quel moment la chaise, en fait, elle se démocratise ?
Il faut attendre un petit peu. L'étiquette de cour va permettre déjà de démocratiser un petit peu ce mobilier, mais c'est surtout au 18e où on a un relâchement de ces codes classiques et le mobilier qui se multiplie. Donc les chaises, les modèles de chaises qui se multiplient aussi, qui se démocratisent au sein de la bourgeoisie. On a différents modèles qui apparaissent et on cherche désormais le confort plutôt que la représentation stricte du pouvoir. Et justement, une des manières dont on voit ce relâchement de l'étiquette de la chaise, c'est à travers la peinture. À l'époque de Louis XIV, les chaises étaient soumises à une étiquette très très stricte, qui se traduisait aussi dans leur disposition au sol. Donc les chaises devaient être alignées au parquet, par exemple. Et on voit ce relâchement de l'étiquette au XVIIIe dans des tableaux notamment de Jean-François de Trée, où les chaises sont disposées en rond pour une lecture de Molière, c'est aussi le titre du tableau. Et donc on voit apparaître les dos des fauteuils qui sont nus, puisqu'en fait, ils ont été fabriqués sous Louis XIV, à l'époque où donc ces sièges étaient posés contre le mur et on n'avait pas besoin d'ornement au dos. Et là maintenant qu'on a ce relâchement et qu'on peut disposer le mobilier comme on veut, on voit apparaître les dossiers nus des fauteuils. Arrive ensuite l'industrialisation, où là on va avoir vraiment une réelle démocratisation. Parce qu'il faut savoir aussi qu'avant tout, un des obstacles à la démocratisation des chaises, c'est le coût de fabrication. Au XVIIe siècle, une chaise, ça coûte une centaine de livres à être fabriquée, sachant que le salaire d'un compagnon menuisier, c'est à peu près 3 livres par jour. Donc on comprend bien que tout le monde ne peut pas se payer ce luxe. C'est avec l'ébéniste et l'industriel Michael Tonnet qui va développer son modèle 14 de manière industrielle, ce qui va lui permettre de le vendre à seulement 3 florins, soit le prix d'une bouteille de vin. Et à ce moment-là, on voit que la chaise envahit les bars, les cafés, les salles à manger. Et on a vraiment une démocratisation de cet objet. Ça va se poursuivre au XXe avec l'ergonomie, notamment sous l'école du Bauhaus, qui va être dans une recherche plutôt de facilitation du travail et du confort. On se focalise plus sur l'individu, mais on cherche le confort du plus grand nombre.
Donc là, on vient de voir que clairement la chaise se démocratise depuis le XVIIIe siècle, ou du moins que cette démocratisation s'est accélérée. La chaise n'est donc plus réservée à une certaine élite comme elle a pu l'être auparavant. Mais dans tout ça, où est passé en fait le symbole du pouvoir dont on parlait ?
La chaise comme symbolique du pouvoir, en fait, avec la démocratisation, elle ne disparaît pas. Elle prend juste d'autres formes. Déjà, elle a toujours un héritage très fort de son passé, entre guillemets, de trône. Donc ça reste un marqueur social. Un des exemples que je trouve très parlant d'ailleurs, c'est que le domicile juridique d'une entreprise, on appelle ça le siège. Un autre exemple du fait que la chaise est toujours dans l'imaginaire collectif, ancrée dans cette idée d'avoir sa place et donc d'avoir une forme de pouvoir, c'est le Sofagate, auquel on a assisté il y a quelques temps déjà, avec donc Ursula von der Leyen, qui s'est retrouvée complètement dépourvue, debout au milieu de tous ces gens assis, et qui donc a été privée non seulement d'une place assise et d'un certain confort, mais surtout d'une place pour parler, de pouvoir et de voix dans ce congrès politique. Donc encore aujourd'hui, le pouvoir symbolique de la chaise, il est très ancré dans les imaginaires. On peut le voir tout simplement avec toute l'étiquette qui reste en fait, qui n'a plus l'ampleur de sous Louis XIV, mais mettons qu'un exemple très simple, c'est dans le bus laisser sa place à quelqu'un. Avoir une chaise, c'est avoir sa place dans la société. Un autre exemple de ça, c'est le siège qui incarne la puissance patriarcale. C'est le fauteuil du maître de maison, qui même quand il est vide, rappelle la présence du patriarche.
Donc en effet, on constate que cet héritage, il est très important. Dans ton mémoire, tu parles aussi de la chaise comme symbole de l'ordre établi, et tu mentionnais notamment les révolutionnaires qui, eux, sont souvent en position verticale.
Oui, c'est un point que j'ai trouvé intéressant, parce que ce qui est intéressant avec la chaise et ce pourquoi elle incarne le pouvoir, c'est aussi le fait qu'elle élève au-dessus de ceux qui sont par terre. Mais on n'est jamais autant en hauteur que quand on est debout. Et c'est toujours ce paradoxe d'un objet qui est à la fois horizontal et à la fois vertical. Et alors que le révolutionnaire qui est debout pour haranguer les foules, faire de grands discours, justement résister contre l'ordre établi, la chaise, elle, met certes l'homme, le roi, le chef dans une position qui est plus basse, mais qui est compensé par cette stabilité, par les quatre pieds, donc un pouvoir qui est ancré et qui donc est voué à rester stable et à être pérenne.
Un autre point d'ailleurs moins évident dont tu parles, c'est celui du formatage du corps par la technique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Ce qui est assez intéressant dans la chaise, c'est que au-delà de la représentation symbolique du pouvoir qu'elle peut induire, elle a elle-même un pouvoir sur nos corps et sur les individus et ceux qui s'assoient dedans. La chaise induit une forme de technique du corps, au sens de Marcel Mauss, c'est-à-dire qu'elle modèle la manière dont on s'assoit évidemment, mais la manière dont on agit et on habite notre corps. Et ce qui est intéressant dans l'objet de la chaise, c'est qu'elle porte en elle la mémoire de comment on doit s'y asseoir. Quand chacun nous voit une chaise, il nous vient à l'idée de personne de s'y allonger sur le dos, par exemple. Donc c'est un concept que Bernard Stiegler appelle la mémoire épiphylogénétique, et c'est l'idée que le siège a donc cette forme de mémoire, la mémoire des objets, de la façon dont il faut y tenir son corps. Et quand je parle de formatage du corps, c'est en lien avec ce que je disais au début, que la position assise n'a rien de « entre guillemets naturel », en ce sens qu'elle est assez traumatisante pour le corps et assez fatigante en fait pour un objet qui est associé au repos. Et donc il a fallu, à un moment, formater les corps et les postures à cette assise. Et ça, c'était très flagrant, par exemple au 19e, sous le régime disciplinaire, où on avait vraiment, par exemple, dans les écoles, des méthodes pour apprendre aux enfants à rester assis sur une chaise de manière assez violente. Mais en fait, ça, on le retrouve toujours aujourd'hui. Dès l'école, on nous apprend à s'asseoir, à être calme, à se canaliser. Et c'est en ça que Jean-Bernard Villem parle de dictature des chaises. C'est qu'on a une forme de monopole radical, au sens d'Ivan Illich, qui s'installe.
Petite précision pour nos auditeurs, le monopole radical est une notion descriptive et critique de la société moderne de consommation et de productivisme. Ce concept désigne le fait qu'un individu soit dépendant d'un outil, se retrouve alors impuissant à agir en toute liberté et devient obligé de consommer les services de la production dominante et imposée. Par exemple, on peut choisir le modèle de voiture qu'on veut, mais dans nos sociétés telles qu'elles sont actuellement organisées, on n'a pas vraiment le choix d'en avoir une ou non.
On a une manière de faire les choses qui est devenue celle qui est inévitable et auquel on ne peut se soustraire. Typiquement, on se voit mal arriver dans un bus et s'asseoir par terre. Idem dans un amphi, sauf s'il est trop rempli, mais bon, en général, on évite. On se voit mal s'accroupir dans une salle de classe. C'est cette idée-là de fait qu'on ait tellement développé cet imaginaire de l'assise et cette technique de la chaise que c'est devenu la seule culturellement et techniquement, entre guillemets, possible.
Si on devait retenir une chose sur ton mémoire, Marine, ce serait quoi ?
Alors c'est une très bonne question, même si c'est difficile de résumer un peu tout. Mais pour moi, ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir comment un objet aussi commun et habituel que la chaise pouvait en fait avoir un impact assez grand sur nos imaginaires, sur nos corps, sur nos quotidiens. Et ça exemplifie bien cette idée que la technique, puisque la chaise est une technique, est invisibilisée quand elle est quotidienne. On pense pas à la chaise en fait, quand on s'assoit sur une chaise, on ne réfléchit pas à la manière dont on plie ses genoux, dont on va poser son bassin, aligner son dos sur le dossier. Tout ça, ça devient automatique, ce qui montre bien et qui est l'essence de la technique, qui s'invisibilise quand elle est habituelle. Donc il n'y a que quand elle ne marche pas, quand le siège est cassé, qu'on prend conscience qu'elle existe. Et c'est intéressant de voir tout ce qui se joue en fait là-dedans. Non seulement d'un point de vue donc, de représentation du pouvoir, mais aussi d'un point de vue de nos corps, tout simplement, de la manière dont on les utilise, et à quel point ça peut modifier aussi la manière dont on s'en sert. D'où cette idée que même les objets les plus anodins ont un pouvoir, au sens où ils influencent nos comportements, nos corps et nos manières de penser.
Merci Marine d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
Et surtout, chers auditeurs, n'oubliez pas la phrase de Montaigne, « Sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. » Merci de nous avoir écoutés. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver les ressources citées ainsi que des ressources complémentaires dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi écouter tous les épisodes de Contrôle Technique sur toutes les plateformes de streaming et sur le site en description. À bientôt pour un prochain Contrôle Technique !